Exawave.
L'histoire de l'art, l'anthropologie,
les
chercheurs en art, médias, design et technologie, ça devient.
Nunc viva interdietenim, fuchest, viva monsartellus, morbitris.
Alors bonsoir tout le monde qui nous écoutait, ce monde qui nous écoute, ce monde invisible, intangible, qui nous écoute en différé ou en direct. Bienvenue à cet épisode, ce dernier épisode de la première saison d'Exasonde, Exawave, ce soir avec Armando Menicacci, notre invité. Bonsoir Armando.
Bonsoir, bonsoir Eric.
Ou bonjour.
Bonsoir Cynthia.
Et Cynthia Nouri.
Bonsoir, bonjour.
Qui est toujours avec nous, mais c'est ta dernière ce soir, Cynthia.
Alors, dernière officielle.
Officielle, parce que tu vas revenir de temps en temps.
Bien.
Ah, d'accord.
Okay. Il va y avoir des tiers.
On maintient le flou.
On maintient le flou.
C'est bien.
Armando Menicacci, tu es chorégraphe, musicologue. OK, je suis désolé, je vais énumérer tout ça. Tu es chorégraphe, musicologue, artiste interdisciplinaire. Une partie de tes recherches porte sur l'usage des technologies numériques en danse contemporaine. Tu es professeur à l'UQAM, mais tu as aussi fondé Mediadance à l'Université de Paris 8 avec Emmanuel Quinz et Andrea Davidson, avec lesquels tu as pendant presque 10 ans poursuivi des activités de recherche et de création, créé des workshops, des expositions et produit des publications. Tu es aussi commissaire à l'occasion, notamment tu l'as été au Podfest à Rio de Janeiro en 2014. Mais j'aimerais peut-être revenir d'abord aux origines de toutes ces activités. Armando, tu as une formation de musicologue que tu as complétée à Rome en 1994. Tu t'es ensuite intéressé à la relation entre la danse et les technologies numériques. Alors, comment est venu ce passage, comme ça, d'abord à la musique, pour ensuite en arriver à la danse?
Ben, en principe, fut le Walkman. C'est-à-dire, j'avais étudié de la danse avec ma mère qui était prof de danse, du Vaganova. Je ne me destinais pas particulièrement à la danse, mais je l'aimais beaucoup. Et puis est sorti le premier Walkman. Et marcher dans la rue, la première fois que vous faites ça avec un Walkman, c'est toujours une expérience.
C'était dans les années 80,
82, quand le Walkman est sorti. Et donc, j'ai commencé à écouter Brahms. Je suis devenu fou de musique classique que j'aimais déjà. J'avais 13 ans. Et donc, j'ai commencé les études de piano, un peu de composition, harmonie. Mais j'y croyais pas trop. Donc, j'ai fait 2 années de droit. Et puis le droit m'a... J'ai retrouvé plus tard, d'ailleurs, dans Lévi-Strauss, qui, dans Triste Tropique, fait la même chose. C'est-à-dire, il fait, sans vouloir faire de comparaison débile, mais il fait 2 ans de droit avant de faire de l'anthropologie. Et il écrit un truc très, très intelligent dans Triste Tropique. Il dit, plus encore que la matière, c'était les clients de cette matière qui m'ont rebuté. Effectivement... Je me sentais parmi des requins prêts à te manger, alors que le bâtiment de lettres est le bâtiment identique, symétrique dans l'université fasciste, de bâtiment fasciste à Rome. Et quand je suis rentré dans lettres pour faire histoire de la musique, c'était comme rentrer dans une mer tropicale. Je me sentais bien, tout le monde était bon, gentil, des amis. Et moi qui étais allé très très mal au lycée, j'avais des très très mauvaises notes tout le temps, là j'ai commencé à avoir le maximum et je voulais être un musicologue. Donc j'ai travaillé 4 ans à l'Opéra de Rome, je faisais les livres de l'Opéra de Rome. Et puis je vais à Paris pour une fête, et à cette fête, pendant cette fête, je donne à deux auteurs du programme de l'Opéra de Rome le programme. Et une des deux, les deux me prennent en maîtrise en musicologie, mais je décide d'aller à Paris 8 avec Ivan Castoyanova. Et puis Ivanka me dit, mais tu t'intéresses au rapport danse-musique, va voir au département de danse. J'y vais et boum, la danse revient dans ma vie. Et avec une crise existentielle très difficile, parce que laisser tomber quelque chose où tu arrivais quand même à un certain niveau pour changer de discipline à 30 ans, c'est pas facile. Mais je ne peux aller que là où le cœur me porte, et donc je suis passé à la danse.
Mais ce lien
j'avais
quand même
toujours
étroit. C'est un lien très étroit entre la danse et la musique.
C'est vrai, mais de l'intérieur de la danse et de l'intérieur de la musique, c'est deux mondes très, très différents. D'ailleurs, c'est très clair, Tchaïkovski écrit dans des lettres à son frère Modeste, et il dit « Les demandes de petits pas en termes de musique sont tellement précises que j'en perds les cheveux et les dents ». Tchaïkovski perdait les dents, avec des dents qui tombaient parce que Petit Pas lui demandait des choses tellement précises.
C'était peut-être pas la seule raison pour laquelle il perdait les dents.
Et, Je vois à quoi tu fais allusion, mais je pense qu'on ne perd pas des dents dans ce cas-là. Bon, en tout cas, il faut voir. Hein. Mais disons qu'effectivement, en fait, la logique... En musique, il n'y a pas de gravité. C'est-à-dire tu peux continuer à monter à l'infini, par exemple, pour des modulations, par progression. En danse, au bout d'un moment, il faut retomber. Et donc, il y a des logiques corporelles, énergétiques qui sont différentes. Et l'histoire des rapports danse-musique, c'est une histoire de conflit, en général.
Mais c'est intéressant, je lisais, c'est un hasard, Paul Auster ce matin qui fait paraître une autobiographie. Puis ce qu'il dit, c'est qu'en 78, il était dans un état terrible, dépressif, il n'arrivait plus à écrire. Il écrivait quelques poèmes que très peu de gens lisaient. Et un jour, il est allé voir un spectacle de danse avec un de ses amis. Et que pour lui, c'était une révélation. Il est resté accroché, mais il a vécu une expérience très intense pendant 2 heures, comme ça. Et ce qu'il a compris, c'est qu'en fait, le rythme intérieur du corps, qui est un rythme un peu musical, c'est le rythme de la danse. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il s'est mis à écrire des pages et des pages sur cette expérience. Et c'est là qu'il a écrit son premier roman qui l'a rendu célèbre. Il a trouvé ce mode d'écriture par la révélation de la danse.
Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que ça serait un peu long. Donc, je ne veux pas me lancer dans...
Non, mais c'est bien, tu peux.
Mais très... En gros, en danse, il manque la définition de la catégorie abstraite, c'est-à-dire le mot « danséité » n'existe pas. En musique, il y a musicalité, en théâtre, il y a théâtralité, en danse, il n'y a rien. Ça n'existe, oui, ça n'existe pas, la danséité. Mais il y a un philosophe, Michel Bernard, qui s'est occupé d'essayer de définir quelle est la catégorie abstraite. Là, que lui, il appelle « orchésalité », parce que « orchésis », c'est mieux que « choreia » pour des raisons étymologiques grecques, on s'en fout. Mais disons que cette densité, elle a 4 caractéristiques. Je ne vais pas les dire, je ne vais pas faire un cours ici, mais en gros, moi, je pense, en reprenant ces idées, que la corporéité dansante, ou plutôt la spécificité de l'organisation sensorimotrice d'un corps qui se trouve en état de danse, peu importe la danse qu'il fait, c'est peut-être pas un art, mais la densité serait la condition de possibilité de tous les arts. C'est-à-dire, c'est la dynamique. Tu vois, par exemple, en art plastique, Rosalind Krauss, la femme de Robert Morris, c'est une des plus grandes critiques américaines, dit que la sculpture, que le cliché le plus fallacieux de la sculpture, sur la sculpture abstraite et sur la sculpture du XXe siècle, c'est qu'elle chercherait à rompre avec le corps et les lois qui le régissent. Elle dit « Une approximation moins fausse serait que toute sculpture, même la plus abstraite, de toute façon fait référence aux lois qui régissent la corporéité. » Et le corps et l'espace. Donc, j'ai fait des études, même en musique, en harmonie, tous les traités d'harmonie de Rameau à Schoenberg, même plus tard jusqu'à Evelyn Andreani avec son anti-traité d'harmonie, etc., ne parlent que de poids. Le arcis et de thésis, c'est-à-dire de tension et de repos. Et la séquence 2-5-1 dans la basse en harmonie, c'est une séquence naturelle, ce qui serait une séquence naturelle de tension entre la septième de dominante et la tonique. Donc je parle évidemment de l'harmonie tonale, c'est-à-dire au moins de Bach jusqu'au Stravinsky néoclassique. Mais ça, à mon avis, ça s'applique même après. Bon, ça serait un peu plus long. Hein. Mais disons que la corporéité dansante ne serait pas un art. Elle se manifeste par la danse, mais elle peut se manifester en architecture. Comme Goethe dit que la cathédrale de Cologne, c'est de la musique congelée. Elle se manifeste en peinture, parce que Kandinsky, dans Point et ligne sur plan, ne parle que de mouvement. La première image, c'est Grete Paluca qui danse. Et il parle qu'entre les points, il y a une tension centrifuge, centripète. En gros, je suis passé de la musique à la danse parce que je me suis rendu compte que le système d'analyse du mouvement développé par Hubert Godard et les gens qui étaient les directeurs du département de danse à Paris 8 à l'époque, le système qu'ils avaient développé est un système qui est applicable à une nouvelle théorie d'analyse musicale, à de l'analyse architecturale, plastique et aussi textuel. André Gide ne pouvait pas écrire s'il regardait pas son visage dans un miroir. Il y a quelque chose de l'art de la corporité. Donc ce que tu dis sur la poésie ne me surprend pas.
Mais ça peut s'appliquer à des disciplines qui sont pas artistiques aussi, alors.
Aussi,
probablement.
Oui. Au fait, le corps, c'est la seule expérience de dynamique qu'on ait. Tout vient de là. On est porté dans le ventre de notre mère. Elle se soulève. Elle se soulève, on sent une poussée, cette poussée. Donc, et les premiers muscles qui se développent dans le fœtus à partir de la quatrième semaine sont les muscles profonds de la colonne, qui sont les muscles, c'est un peu long à expliquer, mais qui pour des raisons physiologiques sont branchés directement sur l'imaginaire et sur la fantaisie. C'est les muscles avec une haute densité de fusion neuromusculaire et une basse densité de moteur neurone alpha, c'est-à-dire du volontaire. Donc on sent d'abord des dynamisations du corps. Ces dynamisations se retrouvent partout, dans la musique, dans la peinture, dans l'architecture. Donc je crois que la corporealité dansante, c'est la condition de possibilité de tous les arts.
Armando Menicacci, tu nous mentionnais un peu plus tôt donc, que tu as étudié le Vaganova. Et si j'ai bien compris, ça passait par ta mère?
Ma mère était danseuse à l'Opéra du Caire. Et elle avait étudié, comme le Caire était sous influence russe, elle avait étudié du Vaganova, donc elle nous transmettait du Vaganova. Et moi, j'ai eu des examens avec Madame Zibina, qui venait de Moscou, qui avait un bâton dans les mains.
Oh, c'est la vieille méthode.
Ah ben,
nature.
Puis là, on a une meilleure idée, là, justement, de ton passage de la musicologie à la danse, mais comment t'as réintégré tout ça, finalement, pour en venir à faire de la recherche-création.
Ouais. Ben aussi, ouais, avec la technologie, c'est-à-dire que mon frère... Moi, je dessine comme quand j'avais 5 ans. Je n'ai pas changé, c'est-à-dire que je fais les pieds comme ça. je sais pas dessiner. Je n'ai jamais écrit un poème, je n'ai jamais écrit une histoire. Je n'ai aucun roman dans la tête, ni aucun film de fiction. Mais mon frère était un petit génie informatique. Quand il avait 14 ans, des revues publiaient des logiciels. Je vous parle des débuts des années 80. Donc, il avait 14 ans, il faisait plein de fric. À 14 ans, il m'a embauché pour qu'ensemble, on informatise une entreprise. Donc, un jour, musique, danse, informatique, à force de les mélanger, la mayonnaise, elle a pris. Et tout simplement, le directeur du département informatique de Paris 8 fait appeler Hubert Godard, l'ex-directeur du département de danse. Hubert me dit, Armando, l'informatique à ce département, c'est toi, vas-y, je ne sais pas ce qu'il veut. Moi, je vais et un gros monsieur avec une grosse barbe qui ne m'avait jamais vu me dit « Assieds-toi, je te raconte mes rêves ». Et il part dans un délire dans cette technologie comme ça. Et moi, j'avais été à la première conférence en France, 1999, au Centre national de la danse, organisée par Claire Rosier sur danse et nouvelles technologies. Je savais ce qu'on pouvait faire. Et il me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Moi, j'ai dit « Pam, pam, pam ». Et lui me dit « T'as besoin de quoi ? Une salle, des sous, des computers ?» Et alors, et c'est parti. Et c'est comme ça que le média danse est né. En fait, la création est arrivée parce que j'ai trouvé par l'informatique mon médium, au fait. Mm-hmm. Mon médium, parce que mes pièces sont une pièce de musique, une pièce de théâtre, une pièce de danse, un site. Elles ne se ressemblent pas du tout. Mais le commun dénominateur, c'est ce que j'appelle le quatrième état de la matière, c'est-à-dire le numérique. Parce que pour moi, le numérique, c'est comme un quatrième état de la matière. Il y a le solide, le liquide, le gazeux et le numérique. Parce qu'on peut numériser...
Mais est-ce que l'analogique ne fait pas partie quand même d'un monde de l'électronique qui pourrait être similaire? Pourquoi spécifiquement numérique alors?
Parce que c'est un code qui n'a pas de poids, c'est un code qui est... c'est un matériau immatériel. Et ça me permet d'organiser une espèce de métempsychose des matières. C'est-à-dire que comme on peut coder tout en 1 et 0, je peux coder un geste, un texte, de la lumière, du son, de la couleur. Et je peux, grâce à des calculs de la machine qui prend ces entrées, transformer en sortie d'un autre ordre. C'est-à-dire qu'un geste peut devenir du texte peut devenir de la lumière peut etc. devenir de la fumée.
Oui, en fait, c'est parce que le sens de ma question, c'était qu'avant le numérique, des gens comme Steno Vazulka, par exemple, s'intéressaient à la danse et la vidéo analogique et arrivaient quand même à créer l'équivalent de ce qu'on fait avec des algorithmes, mais avec un signal qui est analogique.
Ouais.
Donc, c'est un peu cette question, pourquoi spécifiquement numérique ou est-ce que ce n'est pas tout simplement du signal électronique qui est traité, qu'il soit analogique, numérique ou autre?
Mais moi, c'est bizarre, je comprends mieux le numérique que l'analogique. C'est-à-dire qu'avant la logique informatique, il y avait en ingénierie, il y a ce qu'on appelle la logique câblée. Hein, parce que la première pièce dans mes recherches, si j'enlève la casquette d'artiste et je mets la casquette de chercheur, d'historien, la première pièce connue en danse avec de l'interactivité de temps réel, c'est Maurice Béjart, en 1956, sur le toit de la Cité Radieuse à Marseille, où il a composé une chorégraphie avec un robot mouvant de Nicolas Schaeffer. la pièce qui s'appelle CYSP1, C-Y-S-P-1. Dans cette pièce, il existe seulement deux photos malheureusement, mais le robot avait des capteurs, avait un micro, un radar et des cellules photoélectriques. Donc le robot se déplaçait, il existe encore le robot chez Madame Schoeffer, encore dans son atelier à Paris, au-dessus du cimetière Montparnasse. Et ce robot se déplaçait avec les danseurs. Ce robot avait une logique. Donc, si tu coupes le faisceau de tel capteur, il va dans l'autre sens, etc. Donc, il a une logique, mais c'est une logique câblée. Ça veut dire que pour changer la logique, il fallait arrêter tout, démonter la machine et la remonter autrement. La logique informatique, contrairement à la logique câblée, c'est une logique où les câbles sont mous. Les câbles, on peut les recâbler
instantanément, un nombre illimité de câbles qu'on peut recâbler.
Un nombre illimité de autres connexions. Et moi, c'est la possibilité de faire d'autres connexions, mais c'est surtout de créer des passages secrets entre les matières, entre les formes et entre les sens. C'est-à-dire que justement, du texte devient du son. Cette métempsychose des matières et ces passages secrets entre les matières. Voilà. Je suis un chercheur de passages secrets entre les matières.
Si on pense underscore, me semble être une bonne illustration de cette approche-là dans ton travail. Ouais, peut-être tu pourrais nous parler un peu de cette création-là.
C'est marrant parce que c'est une création que j'ai commencée en 2005 et que je suis en train de reprendre. Hier, c'était au fait le premier cours avec les étudiants. Je la reprends à l'Agora de la danse la semaine du 18 au 23 octobre. C'est une pièce, c'est très simple. J'avais été choisi avec Alain Buffard comme artiste professeur au Frénois. Le Frénois est une grande école d'art plastique en France. Donc on a reçu de l'argent pour faire deux pièces. Alain a fait un documentaire sur Anne Alprine et moi j'ai fait un système qui génère des scores, des partitions à la Anne Alprine, qui à partir des années 50 a commencé à développer donc ce qu'on appelle la task oriented performance, dans lequel les danseurs n'avaient plus des formes mais avaient des tâches et qu'ils investissaient, remplissaient, interprétaient à leur manière. Je me suis dit tiens, ça serait intéressant de faire un système qui génère des tâches infinies. Et en plus, je m'étais tapé le livre le pire de ma vie, Nelson Goodman, The Language of Art. Dans lequel il définit qu'est-ce que c'est qu'une partition. Et la partition, c'est l'objet qui garantit l'identité d'une œuvre tout en permettant des interprétations possibles. Et moi, je voulais défier un peu ce concept. Je voulais des partitions jetables. C'est une partition que je ne garde pas. Une partition faite pour Ik et Nuk, ici et maintenant, puis poubelle. Mm-hmm. Ce n'est pas la partition qui compte, c'est les gens. Et donc, voilà, j'ai créé un logiciel avec Christian Delécluse en 2005. En 2006, qui génère, il avait écrit en ActionScript 3, qu'on a fait la première à Berlin, en ActionScript 2, pardon, c'était encore le Flash à version 2, et donc un système qui génère des partitions à danser. C'est un système qui génère des partitions et qui... Mais les partitions sont très simples, on apprend à lire en 5 minutes, mais pour moi c'est important que les danseurs ne sachent pas ce qu'ils allaient danser, mais et que aussi le public, en sachant lire la partition, parce que j'explique comment lire au public la partition, que le public dise « Ah, mais lui, le danseur en jaune, avec les signes jaunes, il fait ça, et la danseuse en bleu, fait avec des signes sensiblement pareils, fait complètement autre chose. »
Parce que juste pour donner une idée peut-être aux gens qui nous écoutent, le dispositif, c'est dans une salle, il y a les danseurs. Moi, vidéo que j'ai vue, c'était dans une salle avec des rideaux noirs, un peu comme ici. Donc, les danseurs au centre et il y a des écrans qui montrent avec des formes, de couleurs, différents mouvements.
Quatre écrans autour du plateau, suspendus à 1,5 m. Le public est assis sous les écrans autour du plateau. Les danseurs sont au centre. Donc, les danseurs peuvent voir la partition partout. Et ils interprètent, chaque danseur a une case de mots et a des signes de sa couleur et a un t-shirt de sa couleur. Donc chaque spectateur sait qui fait quoi et pourquoi. Qui fait quoi et avec quel signe de départ plutôt. Parce que le pourquoi, c'est ça qui... Au fait, c'est une espèce de système qui me permet de faire que les spectateurs puissent pénétrer dans l'imaginaire du danseur. C'est-à-dire, c'est un hommage aux danseurs. Et une autre couche de ça, donc, était cette critique analytique de qu'est-ce que c'est qu'une partition en danse, qu'est-ce que c'est qu'une partition en général. Et l'autre couche, c'est simplement comment vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est une pièce comment on fait à vivre ensemble en créant des espaces de liberté, mais sous une règle commune. On a besoin d'une règle commune, on a besoin des feux rouges, sinon nos voitures, elles se choquent. Mais comment être libre dans la règle ? Liberté et règle, on connaît la fameuse phrase de Stravinsky, dans les moyennes formes aussi, pour être libre, etc. Mais en fait, il nous faut des règles et il nous faut des espaces de liberté. C'est un projet qui questionne ça. J'aimerais beaucoup, par exemple, faire en Palestine avec 3 danseurs israéliens et 3 danseurs palestiniens. Comment être ensemble sous une règle commune ?
C'est intéressant parce que Digital Flesh, c'est ton premier collectif comme créateur, hein, parce que tu es passé de la théorie à la pratique. Comment s'est fait ce passage de théoricien vers Digital Flesh où tu as donc créé Underscore et Dans le Noir ?
Moi, je ne me destinais pas du tout à la création. J'ai toujours détesté ça. C'est-à-dire que... un musée, au fait, quand j'ai fondé Mediadance, des artistes ont commencé à m'appeler dans leur travail, comme Rachidou Ramdan, puis Alain Buffard, justement, puis d'autres au Brésil, ici, avec Conditions Plurielles. Plusieurs artistes voulaient mon regard. Et puis, dans le rush de la création, ils me disaient, Armando, on n'a pas de temps, tu me fais une petite vidéo. Armando, tu fais un peu de son. Armando, tu danses sur le plateau une scène. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais Armando, pourquoi tu ne fais pas tes projets ? Moi, je dis, mais non, mais moi, je ne veux pas faire mes projets. Je ne veux pas être un artiste de merde de plus. Il y en a déjà suffisamment. Je préfère être un bon théoricien. Si tu veux, je t'aide ponctuellement. Mais... Et puis un musée d'art contemporain au Brésil m'a dit, Armando, on te voit toujours travailler sur les idées des autres. Tu n'as pas des idées à toi ? Moi, je dis, non, Dieu m'en garde. Moi, Puis il m'a dit, pense deux jours, s'il y a un truc qui te trotte dans la tête, nous, on aimerait bien te produire. Et moi, j'y avais une chose que je ne savais pas faire et que je voulais voir, en fait. Et c'est que plus tard que chez Deleuze, j'ai vu qu'il dit, un artiste se met toujours à la limite de ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Un artisan, il fait ce qu'il sait faire. Il fait sa table, tu vas acheter sa table parce que tu sais qu'il sait bien la faire. Un artisan, il se met toujours à la limite. Et donc, moi, je ne savais pas la faire. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Christian. Et je voulais faire une installation interactive sonore pour un seul spectateur dans le noir complet. Tous ces mouvements déclenchent et spatialisent des sons. C'était en 2005. Ça,
2005, ah bon.
Dans le noir, en fait.
Dans le noir, dispositif en 2005.
De 2005. Et c'était une révélation. Il y avait tellement de monde qui faisait la queue. La queue sortait du musée. J'ai dit, j'ai des idées, quoi. Je savais
ça
pas.
Ça marche.
Non, mais c'est pas seulement ça marche, c'est que ça parle fouille. Aux gens. Ah oui. C'est pas tant qu'il y avait la queue, c'est qu'il y a des gens qui sortaient et ils disaient, putain, mais j'ai envie de retourner. Ils refaisaient la queue.
Donc, c'était de voir la réaction des gens lorsqu'ils partageaient cette expérience-là.
Oui. Ouais. En fait, c'est que je pouvais créer des percepts et ces percepts parlaient à des gens. Voilà. Moi, je ne sais pas si je suis un artiste ou pas. Je ne me pose pas du tout la question. En fait, j'avais envie de faire des choses que j'aime avec des gens que j'aime. Il se trouve que de temps en temps, c'est des livres, de temps en temps, c'est des cours, de temps en temps, c'est des pièces.
Avec Digital Flesh, il y avait cette idée-là de remettre en question le rapport au corps, du corps à l'espace. Dans le noir, c'était une boîte noire où les gens rentraient un à la fois et ils recevaient des indications un peu contradictoires qui les incitaient à faire des mouvements. Et ce qu'on voyait de l'extérieur, c'était finalement cette personne-là en mouvement. Est-ce que c'est...
On peut l'entendre même.
Ouais, c'est oui, c'est ça. On peut monter le son.
Bien, on va écouter un extrait, puis ensuite, je poursuivrai.
D'accord. Vous ne pouvez pas voir les images. On voit juste quelqu'un qui bouge dans le noir.
Mais qui bouge en cherchant un peu où sont les parois, ici.
Donc, la personne qu'on voit en ce moment est incroyablement active, elle tournoie, elle fonce un peu sur les côtés. Est-ce que c'est un comportement qui a été observé chez beaucoup de personnes? Est-ce que les gens étaient, de prime abord, très actifs en entrant dans cet espace-là? Ou, au contraire, ça pouvait susciter des réactions peut-être un peu plus fermées?
L'idée, c'est de faire que les gens explorent leur noir. Parce que chacun a un noir différent, même si c'est le noir pour tout le monde, objectivement. En réalité, c'est des espaces. Le même espace est un lieu différent, parce qu'il est vécu différemment par chacun. Et les sons racontent une histoire, c'est une dynamique très précise, très écrite en Maximum Space. Ça dure 4 minutes 30 pour tout le monde. Il y a une succession d'événements. Donc, cette succession-là raconte une espèce d'histoire. Hein. Et cette histoire-là n'était pas du tout faite pour faire peur, ou pour, mais c'est pour stimuler à chercher le noir.
Mais il y a vraiment tout un, aussi un travail sur une présence. Comme ça, tu me racontais avant l'entretien que lorsque les personnes entraient dans ce bloc noir, ils se sentaient suivis par quelqu'un. Ce n'était pas nécessairement effrayant ou angoissant, mais il y avait une présence plus ou moins amicale, en tout cas, qui les accompagnait, qui les suivait, parce que les capteurs qui repèrent où se trouve la personne dans cet espace-là permettaient de spatialiser le son pour que la personne se sente suivie par la respiration d'une autre personne.
Ouais. Et puis ça évolue. Au fait, ça commence comme ça c'était l'idée de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que je suis contrôlé par quelqu'un? Parce que dès que tu bouges, il y a un son. Ou est-ce que je contrôle quelqu'un? C'est ce rapport contrôleur-contrôlé. C'est aussi la solitude et la multitude. C'est des idées un peu vagues, en fait. Mais c'est une belle expérience. Il se trouve que cette installation a une vie incroyable en architecture. Parce que comme je peux enregistrer des fichiers sur le déplacement des gens, j'ai des centaines de mesures. Et je donnais un workshop au DEF, Dutch Electronic Art Festival, qui après ça a fermé, mais ce n'était pas ma faute, à Rotterdam. Et il y avait une des personnes qui suivait mon workshop, c'était Ava Fatah, qui dirige la section Nouveaux Médias de la Barthes School of Architecture à Londres. Et j'avais vu que les gens qui sortent, les gens, ils n'ont que deux comportements, en fait, pour répondre plus précisément à ta question. Soit ils font le tour des bords, et puis dans ce centre, soit ils vont vers le centre et ils ne touchent jamais les bords. Et je me dis, tiens, c'est bizarre ça. Et puis, comme j'ai étudié 10 ans l'analyse du mouvement, je sortais, parce que moi, je les voyais par la caméra infrarouge, et je les regardais marcher. En analyse du mouvement, on peut très vite, quand on a un peu d'expérience, déterminer si quelqu'un est bottom-up ou top-down. C'est-à-dire s'il a un centre de gravité légèrement postérieur ou qui tombe légèrement devant l'astragale, l'avant du pied. Ça crée un rapport au monde qui est complètement différent dans la posture. Et les gens qui font le tour du bord, c'est des bottom-up. Les gens qui vont directement vers le centre et touchent jamais les bords, c'est des top-down. Donc, je pense qu'il y a une corrélation entre la gestion du centre de gravité et des patterns d'occupation de l'espace dans le noir complet. Donc, c'est utilisé en architecture maintenant comme outil d'analyse qualitative de déplacement dans l'espace. Et j'ai commencé à travailler à la Bartlett School of Architecture à Londres régulièrement. C'est bizarre, il y a plein de trucs.
Mais c'est intéressant, tu nous racontais. Donc, c'est cette installation-là, entre autres, qui a créé cet engouement et ce partage, en fait, qui t'a donné le goût de continuer.
Et puis aussi la rencontre avec Christian. Vraiment, Christian est une personne formidable. Il a maintenant une carrière comme artiste. Digital Flesh s'est arrêté en 2009-2010, je ne me souviens même plus. Mais parce que moi, on m'a demandé d'être artiste associé à une scène nationale au manège de Reims. Et Christian a commencé à faire ses installations. C'est-à-dire que nos travaux respectifs sont tellement développés qu'on a dû se séparer. Mais sinon, on s'entend encore très, très bien. On continuerait à travailler volontiers ensemble.
Puis justement, quelles sont les thématiques qui habitent ton travail plus récent? Est-ce que c'est encore beaucoup centré autour de cette notion-là du rapport à la corporalité?
Oui. D'ailleurs, je suis maintenant professeur au département de danse ici à l'UQAM et très heureux d'être membre d'Hexagram, avec lequel j'ai envie de faire des trucs très, très vite. Hein, je vois Sandeep Bhagwati qui je sais qu'on va faire des trucs ensemble, c'est sûr. Et puis plein d'autres gens. Hein, ils sont quasiment tous là. Donc j'ai hâte. Là, je finis mon installation, la fondation d'un laboratoire, et puis on va recommencer. Mais en gros, pour finir de répondre à ta question, toute cette histoire de création, en fait, ce n'était que... C'est un mode de travail, c'est un mode d'explicitation de quelque chose qui agit sur le plan des percepts, mais des fois c'est des textes, des fois c'est... Peu importe, au fait, la forme.
Donc, tu viens de mentionner la fondation d'un laboratoire qui est le LAVI, c'est bien, le laboratoire pour les arts vivants. Peux-tu nous parler un peu de ce laboratoire?
Au département de danse, on est en train, avec André Martin et Nicole Arbonnier, de présenter une demande au Fonds canadien d'innovation, parce que nous croyons qu'il n'y a aucun laboratoire comme ça au monde. Nous avons fait beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus, ça fait 2 ans qu'on y travaille. Il n'y a aucun laboratoire théâtre avec des technologies qui nous permettent de dédier cet espace à la recherche-création en art vivant. Il n'y en a simplement pas. Il y en a un dans le New Brunswick, il y en a un à Vancouver, mais ils n'ont pas de théâtre. Ils ont pas, c'est des gros projets, des fois ils louent un théâtre. Mais avoir dans le spectacle vivant, ça a besoin de temps. c'est vivant, c'est du temps, et c'est de l'espace, et c'est du public. Donc avoir un laboratoire théâtre dédié à ça, avec des technologies et avec des gens qui manipulent autant la création, l'analyse du mouvement, le rapport, les rapports scientifiques au mouvement et les nouvelles technologies, tout ensemble, mais il n'y en a pas.
Armando Manicacci, tu actives aussi des processus de composition chorégraphique qui parfois sont vraiment abstraits, ouverts, on peut les interpréter comme on veut, et parfois ils sont dramaturgiques, il y a une écriture dramaturgique. Il y en a une, entre autres, évidemment, où là c'est un cas à part, c'est ce World War II, oui, qui était une commande, alors là il y avait vraiment une narrativité. Mais dans d'autres pièces, aussi dans d'autres œuvres que tu as réalisées, il y a parfois cette dimension dramaturgique ou narrative. Comment tu navigues de l'un à l'autre? Est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe?
Mais même dans l'abstrait, non, c'est une très bonne question, mais même dans l'abstrait, pour moi, il y a une dramaturgie. Dramaturgie au sens vraiment étymologique grec, c'est-à-dire il y a un ergon sur le drama, il y a un pouvoir sur l'action, il y a une force sur ce qui se passe. Astrare en latin, ça veut dire enlever. Ça veut dire enlever de la contingence pour aller vers l'essence des choses. Italo Calvino dit il faut écrire, quand on écrit sur les choses, il faut parler de l'essence des choses. Mais on ne peut pas parler de l'essence des choses si on ne passe pas par leur surface. Dommage que la surface des choses soit infinie. et donc, effectivement, la dramaturgie se trouve aussi dans l'abstrait. Dans le cas de la World War II, par exemple, c'était un truc que je n'aurais jamais imaginé faire, une pièce pour la télé. On me demande de faire une pièce pour la télé.
En Mondovision,
en direct, avec un théâtre construit pour l'occasion pour 9000 spectateurs.
Sur les plages du débarquement.
Sur la plage du débarquement de Normandie, pour les 70 ans du débarquement de Normandie, avec 9000 personnes en live.
Et des chefs d'État.
Un plateau qui fait 9 fois le plateau de l'Opéra de Paris. 400 personnes sur le plateau, dont 390 qui n'ont jamais bougé sur un plateau. C'est-à-dire, tu dis, fais 3 pas, ils commencent avec le droit, ils en font 4, ils commencent avec le gauche. Et 15 000 costumes, 15 maquilleuses. C'était... Et 21 chefs d'État. Oui, Obama, Poutine et tout.
Stephen Harper, je crois.
Stephen à l'époque, c'était en 2014, octobre.
Est-ce que tu
2014.
As serré la main?
Ah non. Non, d'ailleurs, personne. Mon nom est cité, etc. Mais j'ai fait ça avec Delphine Caron parce que je suis pas un fabricateur pur de matière cinétique. Si je suis chorégraphe, je suis un type de chorégraphe qui est pas un fabricateur de matière cinématique précise. Dans la salle, il y a Gilles Jobin, lui, il fabrique de la matière cinétique précise. C'est autre chose. Donc, et au fait, mais j'ai accepté parce que je me suis dit. Tiens, ça va sur TF1 en France et c'est en vision, en Mondovision en direct. Il y a 600 millions de personnes qui vont le voir et qui l'ont vu, en fait. J'y suis après, on ne savait pas avant, mais on calculait ça. Et je me dis, tiens, il y a une manière là de pouvoir faire montrer à la télé et au monde, sur un canal, une danse qu'ils n'auraient jamais vue. Et c'était ça mon défi. Quand je fais des trucs au Centre Pompidou, soit en mon nom, soit en nom d'autres gens, j'aurais pas du tout fait la même chose. Mais là, je me suis dit, j'ai une manière de montrer qu'il y a un ailleurs, une autre chose que la danse où on montre ses seins et on trémousse les fesses le samedi soir à la télé. Une autre danse. Donc ça a été censuré à plusieurs endroits par le cabinet du président, par Sylvie Hubach, qui était la directrice du cabinet de François Hollande, qu'elle m'a censuré 2 fois.
Pourquoi ?
Pour ne pas faire de nom. Mais parce que j'avais choisi un Hitler black. Et je me suis dit, pourquoi on a fait la Deuxième Guerre mondiale ? Mais peut-être parce qu'un jour, parmi les raisons, parce qu'un jour... Un danseur qui est le meilleur danseur pour représenter Hitler, bon, il se trouve qu'il est black, mais il peut le faire. Il peut le faire. Et là, je ne pouvais pas le faire, mais elle nous a dit parce que peut-être que Obama va penser qu'on le traite de Hitler. Bon, je pense qu'Obama est plus intelligent que ça, mais bon, et la deuxième scène, c'était la scène du traité de Téhéran dans laquelle Staline, Churchill et Eisenhower ont décidé de l'opération Overlord qui a donné lieu au débarquement. Et j'avais fait toute la pièce, c'est une série d'hommages à des tableaux chorégraphiques, hommages à des chorégraphe de pays occupés par les nazis. Donc, c'était ça, dans ce cas, c'était, c'était la table verte de Curtius. Et il y avait des dessous de table dans les négociations. Il y a toujours des dessous de table dans les négociations. Il y a des gestes au-dessus, en dessous de la table. Ils ont dit, peut-être ça va mal être mal interprété. Mais bon, là, ce n'était pas tant, en fait, ce que je revendique, c'est simplement là, c'est je me suis dit que l'esthétique, c'est quoi ? L'esthétique, c'est comme une grande terrasse auquel on décide à quelle table on s'assoit. Hein, et l'objectivité, c'est-à-dire tu décides de parler avec certaines personnes qui ont une certaine esthétique. Hein, la définition, Karl Dahlhaus, le grand musicologue, dit que l'objectivité n'est que l'intersubjectivité d'un groupe qui partage un jeu de langage similaire. Donc ça veut dire que j'ai montré à des gens qui ont un autre jeu de langage qu'il y a autre chose. Il y a un autre jeu de langage, c'est-à-dire et je me suis dit peut-être ça va toucher quelqu'un. Au fait, ce qui m'intéresse maintenant comme positionnement artistique, c'est de faire dialoguer les tables. C'est un peu comme cette chemise. Au fait, c'est une moitié smoking et moitié avec des rayures, moitié bouton de manchette. C'est-à-dire, c'est pas être indécis, c'est être au milieu de quelque chose, essayer de faire dialoguer les esthétiques. Au lieu de se dire, je fais des pièces pour le Centre Pompidou, je me destine à ça, ou je fais des pièces pour le White Cube, je me destine à ça, j'aimerais que les gens se parlent, qu'on se parle plus.
Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui auraient peut-être envie d'avoir un aperçu de cette création-là, c'est assez impressionnant, c'est une heure. Il y a la version télévisée qui est disponible sur YouTube et on va mettre le lien sur le site ExaWave qui est hébergé sur le site hexagram.ca. Donc, cette expérience-là qui est quand même, qui détonne du reste de ton parcours quand même, a vraiment influencé, de ce que je peux comprendre, comment tu appréhendes ta création.
Oui, ouais, c'est vrai qu'à partir de maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que, je le répète, j'ai co-signé avec Delphine Caron, une chorégraphe extraordinaire en France, qui et je l'ai choisie pour une raison particulière. Au fait, d'abord, elle est normande, donc c'est son histoire, hein, c'est son corps. Deuxièmement, ce qui l'intéresse dans sa compagnie Point Zéro, c'est de faire dialoguer la danse contemporaine, la danse classique et le hip-hop et le pop in Boogaloo, c'est-à-dire des musiques que l'on a eues à cause du D-Day, à cause du débarquement. Donc je me suis dit que dans sa danse, dans son corps et dans son histoire, elle était le produit du débarquement. Et donc, il fallait un espèce de joker, c'est-à-dire moi, qui suis moitié italien, donc ce n'est pas mon histoire, moitié égyptien, donc c'est encore moins mon histoire, et j'habite au Québec.
Comment on s'adapte aux horizons d'attente, non pas des gens qui commandent des œuvres ou des gens qui vont juger si ou non l'œuvre doit être diffusée, mais vraiment aux horizons d'attente du public? Parce que ton travail est d'une part une recherche très poussée, très pointue, qu'on peut analyser de manière très raffinée, et d'autre part, dès la première œuvre avec Dans le noir, il y a quelque chose qui, même pour quelqu'un qui connaît peu la danse ou l'art contemporain, peut facilement aller chercher la personne et l'impliquer dans l'œuvre. Et ça, c'est un talent incroyable que tu as, qui doit venir naturellement. Mais à la suite de l'expérience avec World War II, j'imagine que tu as dû te poser la question, comment je fais pour négocier avec ces horizons d'attente d'un public aussi vaste, même si tu n'avais pas encore, ça allait être 600 millions, là, mais ouais. C'est quand même...
Il faut beaucoup de... au fait, je me suis dit tout simplement, je connais quand même TF1, je la regarde le moins possible, mais je la regardais le moins possible, mais je connaissais un peu. Donc, je me suis dit, il faut déplacer un peu tout ça. Il faut essayer de... Par exemple, on m'avait dit, OK, il y a le groupe F qui est un grand groupe de feux d'artifice qui fait des explosions sur scène, des flammes, des marrons d'air. Et là, on vous donne des mitraillettes, des casques, et vous êtes stressé sous les bombes. Ça, c'est la scène du débarquement. Moi, j'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne me dites pas ce qu'il faut faire. Sinon, vous le faites. Hein. Moi, je vous dis au revoir. Non, moi, j'ai fait, par exemple, c'est la scène dont on est avec Delphine Caron, je pense, plus fier. On a fait la scène du débarquement, c'est une lente marche de cour à jardin, donc de gauche à droite pour le spectateur. Les danseurs professionnels, ils avancent et ils tombent très lentement, comme frappés par des balles. Ils sont suivis par les autres 390 qui ne font que marcher et ils tombent. Donc à fur et à mesure que les danseurs tombent, ils se relèvent, ils retombent, ils se relèvent, ils retombent dans une traversée comme ça. Et pour ça, j'ai choisi la musique de L'ère du froid dans King Arthur de Purcell. une musique un peu dramatique comme ça, mais pas du tout illustrative, western, bataille, Star Wars, John Williams, etc. Donc c'est juste une marche avec des gens qui meurent, avec des gens qui jonchent. Moi, j'avais même demandé qu'ils soient habillés en blanc, parce que c'est des êtres pour la mort, pour citer Lévinas, des êtres voués à la mort. Mais bon, c'est passé. C'est déjà que ça soit passé, c'est incroyable. Ça, c'est, j'ai jamais imaginé qu'un truc aussi minimaliste serait passé. En plus, on a eu l'idée de le filmer avec une caméra à 300 images secondes. Donc, au fait, des mouvements au ralenti des danseurs étaient encore ralentis. Du coup, ça créait quelque chose d'assez étrange. Je suis assez content, non pas... Si je regarde ça esthétiquement, je ne suis pas satisfait par rapport à mes exigences et ma culture, mais je pense que c'est important de penser toujours au public. Quand Pasolini, on l'interview à la radio, il dit « Bon, vous écrivez pour quel magazine ?» Parce que moi, je m'adresse, il faut que je sache qui me pose la question, parce que c'est la question de l'adresse. Là, je m'adressais à des gens en particulier, et c'est déjà, je pense, un assez bon résultat. Je suis assez content de ce truc. Je suis sûr que sur TF1, on n'a jamais vu un truc comme ça, en tout cas.
Il y a quand même une narration, il y a une voix off qui raconte l'histoire
de manière assez factuelle. Tout était imposé du début à la fin avec un minutage, parce que pendant la chorégraphie, il y a 18 parachutistes à un moment qui doivent tomber. Il y a les avions, il y a des bateaux de guerre derrière. Non, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la complexité.
C'est comme un spectacle de Jean-Michel Jarre ou quelque chose.
Ah non, c'est beaucoup plus gros. J'avais une topeuse de cinéma avec un iPad, elle donnait que des tops. Son boulot, c'est d'avoir une énorme timeline. Ça, c'est top pour tel groupe, pour les feux, pour la télé, pour la caméra, pour les parachutistes, pour les hélicoptères. C'était l'enfer, quoi. L'enfer. Ne le faites pas. Ne le faites pas.
Et donc, tu n'as pas pu intervenir sur le propos, la voix off, donc le
texte manqué
vraiment.
Zéro,
comme,
je
plutôt
pouvais.
Plutôt un cours d'histoire, en fait.
Rien faire. C'était, ça racontait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Blitzkrieg à la construction de l'Europe. Donc, à un moment, il fallait qu'on mette 12 étoiles de l'Europe et il fallait l'intégrer dramaturgiquement, ça, dans la chorégraphie. Donc, j'ai eu l'idée de faire que pendant une scène de bombardement évoquée, parce qu'il n'était pas montré, arrivent des gens qui portent des morceaux gris qui sont des décombres. En fait, ces morceaux gris sont des étoiles de l'Europe qui, quand elles sont retournées de l'autre côté, se montent et s'encastrent et on monte l'Europe. Mais ils voulaient que je lâche des colombes, le lâcher de colombes, les enfants.
Non, et donc, c'est... tu as réussi à résister à tout ça.
Oui.
Mais ça fonctionne très bien.
Il n'y a pas de lancer de colombes.
Je vous conseille de le regarder parce qu'en fait, c'est intéressant. Cette voix off, c'est un peu comme un médiateur culturel qui nous ferait visiter le musée en nous expliquant une œuvre. En fait, en plus, si vous voyez ceci, ça veut dire cela.
C'était incroyable, c'est qu'on avait choisi des images où il y avait Elisabeth II, toute jeune, à côté de Churchill, qui annonce la fin de la guerre, elle parmi les soldats, et elle était dans le public. Son visage n'a pas bougé d'un millimètre, quoi.
Ah, parce que vous l'avez intégré aussi au film.
Une espèce de...
Ça, c'est incroyable.
On l'a intégré au film, donc elle se regardait à 16 ans à côté de Churchill, qui annonce la fin de la guerre. Elle est là quand même. Elle, c'est un vétéran. Au fait, il faut penser que la reine d'Angleterre, c'est un vétéran comme les autres, qui étaient les 9000 autres qui étaient sur le plateau. Elle n'a pas bougé. Incroyable. Aucune émotion là. Habillée en vert fluo. C'est incroyable.
Tu n'as pas eu la chance de la rencontrer.
Non. J'ai rencontré d'état. Personne. J'ai rencontré personne, en fait. On était tellement... Et à un moment, c'est une petite anecdote, au fait, c'était le moment de la crise de l'Ukraine. Donc, la première personne que Hollande invite était le président de l'Ukraine pour donner un coup à Poutine. Alors, ensuite, arrive Obama, 9000 personnes qui l'applaudissent. Arrive Poutine, 9000 personnes qui le huent en direct, comme ça. Bouh! Et lui, le réalisateur a pris un moment dans lequel, parce qu'il y avait trois énormes écrans LED plantés dans le sable, le réalisateur, avant l'émission, à un moment, tout le protocole avait été fait pour que Poutine et Obama ne se rencontrent pas. Et le réalisateur a la brillante idée, à l'écran, pouf, il met un qui regarde l'autre en image figée. Le directeur du protocole de l'Élysée me dit « Vous n'êtes pas là pour faire la politique !» Ouais, il commence à dire « Mais moi, je ne suis pas aux manettes, je suis là à côté de toi, je ne contrôle pas le mixeur. » Donc, ils sont partis et ils ont recontrôlé toutes les images à partir de là pour éviter un espèce d'incident diplomatique qui n'a eu lieu que dans les images. Donc, complètement...
C'est un projet mémorable. Alors.
Mémorable, ouais, dans l'horreur comme dans le plaisir. Non, mais c'était vraiment... Et ça a gagné tous les prix comme meilleur événement, machin, télé européen, etc. Mais parce qu'il y avait du contenu, mais je ne ferais jamais ça. A posteriori, c'était vraiment trop dur.
Alors, Armando Menicacci, si tu ne feras jamais ça, quels sont les projets futurs maintenant?
Alors, mais moi, je fais des... j'aime bien des petites choses. Non, mais là, c'était une grosse chose, mais je sentais une espèce d'obligation un peu morale de le faire et de le faire justement autrement, parce que sinon, si je me dis, sinon, il y en a un encore plus con que toi qui va le faire et qui va le faire de manière encore plus plate. Alors, c'est plate, mais c'est moins, peut-être moins plate. En tout cas, à mon sens, c'est moins plate que ce que j'aurais pu imaginer ou d'autres trucs qu'on a vus à la télé de choses similaires. Mais non, c'est des choses plus... je pense à une installation interactive pour un seul spectateur, soit-ci que vidéo, pour redéfinir les processus percepto-moteurs. En fait, c'est...
Donc, c'est un retour à la recherche que tu avais entreprise.
Oui, oui. Et puis, beaucoup de recherches purement universitaires sur les processus d'analyse du mouvement. J'ai une partie un peu scientifique qui, maintenant, va prendre le relais. Et puis quelques installations et quelques créations qui sont en train de mijoter en ce moment.
J'imagine que parmi les gens qui sont ici, vous avez quelques questions à poser à Armando. Il y a un micro pour vous qui est là. Vous pouvez prendre le micro.
Tu veux de l'aide?
Vous pouvez vous lever, vous passer le micro. Comme vous voulez. Vous pouvez venir vous asseoir avec nous à table si vous voulez.
Oui. Ouais, on sert des verres de vin d'ailleurs. Passe la bouteille. Merci.
Non.
On a mérité, non?
Vous êtes sûr, une gorgée de vin de plus et il y a un courageux ou une courageuse qui peut se lancer.
C'est si clair que ça, tout ce qu'on a raconté, mon Dieu.
Ah. Oui. Mais en même temps, pourquoi l'UQAM maintenant, après tout ce parcours?
Et c'est une très bonne question, mais en fait, elle est simple. C'est arrivé comme ça. On m'a demandé, Armando, tu ne veux pas passer un concours? Je lui ai dit non. j'enseignais. En fait, j'avais même quitté l'université en France. J'étais dans une école d'art, l'école Art et Nouveaux Médias à Chalon-sur-Saône. Toute petite école avec un corps professoral intéressant, et un directeur génial, Dominique Pasqualini. Et puis, on me dit... envoie les papiers parce que comme ça, même si tu ne veux pas, on va pouvoir... choisir quelqu'un à ta place, mais on va faire comparer. Donc j'envoie les papiers et puis ils me disent, bon, tu passes à la phase orale. Mais j'ai dit, mais moi, je veux pas. Genre, j'ai une copine qui a deux enfants, on n'arrache pas les enfants au père. Même mon côté féministe, je me sentais cool parce que je me suis dit, c'est toujours les femmes qui se sacrifient pour les postes des hommes. Là, c'est moi, donc...
C'est mon tour.
Mon côté féministe, j'étais satisfait de moi-même, en fait. J'étais même content. Et puis, ils organisent 3 jours d'études sur mes recherches. Je viens, je passe... et ils mettent le concours sur les dates où je suis là. Donc, comme je suis là, je passe le concours. Et comme je ne voulais pas, j'ai balancé mes idées les plus radicales en pédagogie. Et ils ont dit, OK, c'est toi. Moi, j'ai dit, désolé, je vous avais dit, et je repars. Et j'ai dit, au revoir. Je reviens en France. Puis finalement, on continue à parler. Je comprends ici aussi deux choses qui sont fondamentales et qui me plaisent beaucoup, vraiment beaucoup. Un, cette idée de recherche-création. Et c'est une idée de non-séparation entre la res cogitans et la res extensa. C'est-à-dire, on fait des choses. En France, il y a les écoles d'art et les universités. Les universités et les conservatoires. Il y a les gens qui transpirent et les gens qui pensent. Les gens qui transpirent ne doivent pas penser et les gens qui pensent ne doivent pas transpirer. C'est vraiment débile. Le monde n'est pas comme ça, mon corps n'est pas comme ça. Et puis aussi les moyens, puis la qualité du département de danse, la qualité de l'UQAM que je connais. Alain Fleischer, qui m'avait choisi avec Alain Buffard au Frénois, est un ex de l'UQAM. Donc c'est quelqu'un qui comprend ce que c'est que la recherche création. Et puis Hexagramme, au fait, Média Danse que j'avais fondé et pour moi était un espèce de micro Hexagramme parisien que j'essayais de fonder moi-même parce que pour moi Hexagramme c'était ce truc énorme et voilà, et je suis là. Et donc j'ai compris que ça m'intéressait. L'Italie ne m'intéresse plus depuis très très longtemps. La France depuis moins de temps, mais elle ne m'intéresse plus non plus. Je suis très bien là où je suis ravi. J'ai aucune envie de revenir.
Merci d'être avec nous.
Merci.
D'autres questions, d'autres commentaires, réflexions? Une poésie sonore?
Poésie, hein? Sonore, oui, mais poésie.
La poésie est toujours sonore, en fait, oui. Dans les faits.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison.
Elle peut être élémentaire ou concrète. Alors, okay. Sinon, ça va se continuer. On va poursuivre ça de manière informelle. Je voulais remercier... pour la fin de cette émission, l'équipe d'Hexagramme pour d'avoir soutenu au cours de toute cette première saison, Nathalie Lafortune, Martin Pelletier, Chris Salter, tous les membres qui ont participé. Cynthia Nourry qui était avec nous au cours de cette saison, Audrey Laperrière, Jérémy Gour qui n'est pas là ce soir mais qui était avec nous durant la saison, et notre invité ce soir, Armando Manicacci. Merci beaucoup,
merci,
Armando.
Merci de votre patience. Merci beaucoup.
C'est une recherche fascinante. Merci. Alors, cette émission est disponible en podcast sur le site d'Hexagram, regroupement stratégique. Donc, international.
Et hier, j'en ai écouté plein. Hein.
T'en as écouté plein?
Ah ouais, j'ai écouté Sandeep, j'ai écouté Gisèle Trudel, Sandeep Bhagwati. Là, je me les faire en entier, c'est intéressant.
Et c'est aussi rediffusé à CKUT à l'émission L'ère du diable qui a lieu toutes les deux semaines, le jeudi soir à 23h.
À la prochaine.